Vendredi 19 octobre, vous écoutez La Vie en BD. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 et un plaisir de vous retrouver, voilà, une nouvelle fois cette semaine pour parler bande dessinée dans le cadre de cette émission La Vie en BD. Et un gros programme cette semaine, un gros programme également pour les semaines à venir. Il faut dire aussi qu'il y a quand même pas mal d'activités BD qui sont annoncées, qui sont à l'horaire présentement dans la capitale. Notamment, vous avez parlé il y a quelques semaines du Festival Québec en toutes lettres, les expositions à saveur BD, notamment Zoom sur Mézières, qui sont présentés dans le cadre de cet événement, ont toujours lieu, ont toujours cours cette semaine, donc c'est toujours le moment d'aller y faire un tour. Et d'ailleurs, puisqu'on mentionne Jean-Claude Mézières, l'auteur, le dessinateur de Valérian, sachez qu'il sera avec nous la semaine prochaine. On vous a préparé une rencontre d'une heure avec cet auteur légendaire. Ça a été un plaisir de le rencontrer. Enfin, on a enregistré l'entrevue et l'émission cette semaine, donc on sera un plaisir de vous la présenter la semaine prochaine. Également, en matière d'activité BD, il y a le 25 octobre prochain un lancement du deuxième tome de la série White Crows, la série de science-fiction de GF. Donc, le lancement aura lieu le 25 octobre chez Phylactère autour de 18h. Avec évidemment séance de dédicace. Et d'ailleurs, nous, on aura l'occasion de parler de fond en comble de White Crows 2 avec GF le 9 novembre. Donc, on est quand même en avance dans notre planification. Et sinon, autre activité à saveur BD qui s'en vient, c'est le 28 octobre prochain, le match inaugural de la Ligue québécoise d'impro BD, la Liki BD. Et on aura l'occasion aujourd'hui, et on revient dans l'instant présent, carpe diem, comme disait l'autre. Alors, on aura l'occasion de parler aujourd'hui de cette ligue en compagnie de joueurs et d'organisateurs de cette nouvelle entité qui, si l'on suit au match qui avait été présenté au Festival de la bande dessinée francophone de Québec en avril dernier, a beaucoup, beaucoup de potentiel. Alors ça, c'est un des éléments qu'on aura l'occasion d'explorer aujourd'hui. Également, parution récente du côté de l'auto-édition, c'est JP Perrault avec Antoine Joie qui propose une série de super-héros à saveur un peu absurde et humoristique. Ça s'appelle Fearless Man et donc le dessinateur sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous présenter cette bande dessinée. Également de passage en chronique, Marco Duchesne pour nous parler BD. Une BD avec un concept assez particulier, je n'en dis pas plus, je lui garde ses punchs pour la fin de l'émission. Alors voilà donc pour le menu d'aujourd'hui. Et par ailleurs, je mentionne au passage, puisqu'on est dans les environs de l'actualité BD, que c'était presque un passage obligé pour la série Millennium après deux adaptations cinéma, après les livres évidemment de Stieg Larsson, il y aura en novembre donc une parution BD de Millennium également. Ça a été annoncé là, tout récemment, alors ce sera à suivre évidemment, et on verra si l'adaptation vaudra la peine ou si ce ne sera qu'une vague opération mercantile. Alors voilà pour ces clins d'œil, et sinon, pour nous accompagner aujourd'hui au fil de l'émission, la sélection musicale de la semaine, c'est la formation Talkboy Arcade, avec leur album Azalea Avenue, et on écoute immédiatement un petit extrait de cet album. Et je vous rappelle, par ailleurs, si vous voulez avoir des nouvelles de la vie en BD, ben, plusieurs moyens de nous suivre dans la sphère cybernétique, notamment via notre Facebook. Donc, la vie en BD, évidemment, sur Facebook. Simplement, à nous chercher, vous allez nous trouver assez facilement. Sinon, nos blogs, lavieenbd.wordpress.com pour les podcasts des émissions, également pour mes commentaires et mes regards personnels sur la bande dessinée, ainsi que quelques actualités, ben, c'est voir.ca/Raymond-Poirier. Et j'en profite, ça fait quelques semaines que je cumule ma pile de BD, devient assez imposante également sur mon bureau. Et donc, je, disons, remplace, si l'on peut dire, nos collaborateurs habituels pour porter et pour vous proposer mes regards sur quelques parutions récentes. Et notamment une bande dessinée qui traite du travail des policiers. On connaît bien, en fait, du moins, on a l'impression qu'on connaît bien le travail des policiers, leur quotidien avec des émissions comme Cops, avec le cinéma et le reste. Mais il s'agit qu'on creuse un temps soit peu pour se rendre compte à quel point, au contraire, la connaissance qu'on a de ce travail-là, eh bien, elle est extrêmement stéréotypée. Alors, il y a en France une auteure, une ancienne lieutenante de police qui s'appelle Bénédicte Desforges, qui a publié quelques livres sur, justement, le travail des policiers, sur le travail au quotidien. Elle dit, en fait, le travail des flics ordinaires et la vie ordinaire, au bout du compte, de ces travailleurs-là. Une vie ordinaire qui, évidemment, de par la nature de leur emploi, prend quand même des consonances, j'irais pas extraordinaires, mais disons, allons-y avec hors de l'ordinaire, qui est probablement plus à propos pour ce terme. Et donc, en fait, peut-être avez-vous eu l'occasion de les lire, ces livres, et ils ont l'air bien intéressants si je me fie à cette bande dessinée qui nous arrive via Casterman, où le dessinateur Serra a été appelé à mettre en image donc une courte narration, une courte réflexion, un court regard sur le travail donc de policier, écrit par Bénédicte Desforges. Ça donne quelque chose d'assez intéressant. En fait, il faut dire que dès le départ, la narration de Madame Desforges, eh ben, elle frappe, elle fonctionne. Je vous en lis un extrait très rapide. Elle dit notamment, et j'ouvre les guillemets, « Chaque flic doit garder à l'esprit qu'il existe avant tout pour le chiffre. On ne lui demande pas d'avoir foi en le chiffre, mais simplement de le pratiquer au quotidien sans se poser de questions, et avec ferveur si possible. Le chiffre peut devenir une maladie. Certains flics pensent bien faire en voie envers et contre tous, à tout bon sens, leur carrière au chiffre. Le chiffre est l'opium de la police. » Alors quand même, des constats qui peuvent sembler assez nets, assez clairs sur ce métier-là, et ça donne un résultat qui est intéressant au niveau narratif. Même, en fait, on ferme cet album-là, on ferme cette lecture-là en ayant envie d'en lire plus, en ayant envie de jeter un coup d'œil justement à ces ouvrages-là. D'un côté pour les réflexions, de l'autre côté pour l'honnêteté qu'on sent aussi et la lucidité dans le regard de ce travail qui ressort donc de l'écriture de Desforges. Et parallèlement, évidemment, tout ça qui est mis en lumière et qui est mis en image de manière assez efficace, somme toute, par Serra. C'est essentiellement donc un livre en plusieurs petits segments. Donc au départ, on établit un peu l'ambiance, l'esprit dans lequel le travail se fait. Ensuite, on parle des difficultés du métier et on en vient avec une série d'anecdotes qui défilent. Et donc, ce qu'on remarque, c'est peut-être que la première lecture, on a envie de suivre la narration. Tranquillement, on revient en arrière, on regarde maintenant les images, on regarde cet autre récit qui vient un peu en complément aux propos qui sont présentés. Et donc, les deux récits séparément fonctionnent, les deux récits mis ensemble fonctionnent encore mieux. Donc, ça donne une incartade qui est intéressante, qui est stimulante, qui est peut-être même surprenante à certains égards sur le métier de policier, qui est très courte, malheureusement, je le souligne une nouvelle fois, mais qui, si vous avez envie d'explorer un peu tout ça, ben, peut quand même mériter le détour. Autre regard, autre sortie récente, c'est du côté de La Pastèque. Et je dois l'avouer, j'aime bien en fait les livres, les récits inspirés de faits vécus. Et on l'a vu en fait au fil des années, il y a des sujets vécus qui reviennent, peu importe le médium, d'une forme d'expression à l'autre, de la littérature au cinéma. Il y a la Deuxième Guerre mondiale qui est un peu incontournable. Donc le sujet a donné à différents dans différents arts de petits bijoux, des chefs-d'œuvre. C'est un conflit qui, faut l'avouer, là, d'une décennie à l'autre, continue de faire fasciner, continue d'intriguer de la grande histoire jusqu'à la petite histoire. Et avec deux généraux récemment parus dans sa version française aux éditions La Pastèque, eh bien, l'auteur canadien Scott Chandler apporte une pierre à cet édifice-là. Qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, c'est essentiellement l'expérience de son grand-père, donc là, Chandler, le meilleur ami de celui-ci, Jack Chrysler, donc deux officiers du Highland Light Infantry qui sont envoyés outre-mer avec leur régiment. Donc deux soldats qui se retrouveront en plein cœur de ce jour le plus long maintes fois raconté. Et au-delà, dans l'opération qui amène donc les Alliés à prendre le nord de la France, puis le continent européen tout entier. Et donc, Chandler, pour essayer de raconter cette histoire-là, a été chercher les journaux de bord de ces deux hommes-là, leur correspondance avec, évidemment, leurs épouses, leurs conjointes, leurs amis sur le continent canadien. Donc, un matériel de base qui vraiment permet de se plonger d'un côté dans l'esprit de ces deux généraux et d'autre, d'apporter vraiment un ton quotidien. Donc, c'est pas un ouvrage qui est introspectif, c'est un ouvrage qui est descriptif, mais c'est une description qui fonctionne, qui est efficace, qui est solide, qui est appuyée par une recherche factuelle, d'ailleurs, également par l'auteur. Il faut dire que c'est un travail qui a été moult fois récompensé dans différents concours et prix littéraires au Canada. Et ce qui est intéressant là-dedans, donc, c'est qu'au-delà du conflit lui-même, donc, on se retrouve vraiment dans le travail et le quotidien, donc, comme je le disais, de ces soldats. C'est l'attente qui frappe, un peu comme dans d'autres films. On pense à Jarhead, par exemple, qui aussi s'intéressait à l'attente avant la guerre. Donc, dans ce cas-ci, on les voit attendre en Angleterre, recevoir les ordres de mission, attendre pour franchir la Manche, attendre dans les bateaux pendant que le conflit est déjà débuté, attendre de sortir pour aller affronter l'ennemi, attendre les ordres une fois que l'assaut est commencé. Donc, des moments de grand stress, de conflits armés qui sont ponctués de moments d'incertitude, d'attente. Donc, on crée vraiment un rythme en balancier à l'intérieur de ça. Et Chandler, vraiment, nous amène du champ de bataille, de ses considérations stratégiques à la cale des navires, au retranchement des militaires alliés. Et à travers tout ça, évidemment, ce qui en ressort aussi, et peut-être surtout, c'est le côté hommage, donc hommage au grand-père de Scott Chandler. C'est un hommage qui est réussi, puisqu'il nous présente certes les actions de l'homme, de ses proches, mais sans jamais, jamais perdre de vue le contexte plus global dans lequel ces perspectives individuelles-là vont s'inscrire. Donc la guerre est le révélateur, la guerre est un peu, on pourrait dire, en fait, le déclencheur, le moteur de ce récit-là, et c'est au bout du compte, l'âme et l'essence de ces officiers-là qui en demeurent le cœur de l'entraînement jusqu'au conflit armé. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un ouvrage qui est incontournable quand on parle de la littérature autour de la Deuxième Guerre mondiale, mais reste que, selon moi, ça représente un ajout qui est solide, qui est efficace à cet ensemble-là. Un survol, et côté couleur, c'est aux dominantes vertes et rouges. Un survol simple, honnête, la réalité de deux hommes parmi tant d'autres, et qui, au bout du compte, sont appelés par le destin à participer à des événements exceptionnels qui ont marqué donc l'histoire de l'humanité. Ça s'appelle Deux généraux, c'est de Scott Chandler et c'est aux éditions La Pastèque. Toujours à l'écoute de La Vie en BD, toujours des petits extraits de la formation Tallboy Arcade, tiré de leur album Mazalea Avenue. Le petit extrait qu'on vient d'entendre, c'est Borealis Aurora 1. Toujours donc, je le rappelle, sur les ondes de CKRL. Et on l'a mentionné d'entrée de jeu, donc Une nouvelle ligue d'improvisation qui voit le jour à Québec, mais on vous en parle parce que c'est plus que de l'improvisation, c'est de l'impro BD. Donc, il s'agit de la Ligue québécoise d'impro BD, la Liki BD. Le match inaugural de cette ligue est prévu pour le 28 octobre prochain à 20h. Donc, au Cercle, c'est entrée libre. Alors, on nous dit, ben, regardez, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas expérimenter ce nouveau concept. Mais quel est-il, ce nouveau concept? Comment est-ce que tout cela fonctionne, marche? Eh bien, pour nous en parler, pour nous présenter tout ça, on est en compagnie de trois personnes qui appartiennent à la Liki BD. Alors, l'un des organisateurs de la Ligue, des coordonnateurs de la Ligue, il est également directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Thomas Licoté, bonjour.
Bonjour.
Et également, deux joueurs qu'on verra sur scène. Un comédien, Simon Trudeau, bonjour.
Bonjour.
Et une dessinatrice, Valérie Morancy, bonjour.
Bonjour.
Alors, ben, d'emblée, on commence par les définitions. Qu'est-ce que c'est l'impro BD?
Ben, l'impro BD, dans le fond, c'est de l'impro théâtral auquel s'allie un adversaire ou un allié de taille, dessin.
Mm-hmm.
Allié, ben, ça dépend pour qui, parce qu'un peut bloquer l'autre et tout. Mais, donc, on allie des équipes d'impro BD classiques, d'impro classique avec des auteurs de bande dessinée, de Québec. Donc, Jean-François Bergeron, Michael, Valérie ici et d'autres.
Et qu'est-ce qui a mené vers ce concept-là? D'où est venue l'idée, justement, de métisser l'impro théâtrale avec, au bout du compte, le dessin en direct?
L'impro BD est quelque chose qui s'est fait diverses formes, que ce soit au Québec ou ailleurs. Souvent, c'était plutôt uniquement le dessin. Donc, on improvisait autour du dessin. Moi, j'avais vu en Europe la version avec impro théâtrale et dessin en différentes formes. Je trouvais que c'était bien intéressant. Et on a fait le test l'an dernier au Festival de la bande dessinée lors du 25e au Musée de la Civilisation. Et ça avait franchement bien marché.
Oui, c'est là qu'une bonne majorité des joueurs d'improvisation qu'on va avoir sur scène le 28 octobre prochain, c'est là qu'ils y ont goûté pour la première fois. Et je pense que tout le monde qui y a participé a trouvé ça enivrant.
Et autant le public, parce qu'on a eu vraiment une belle foule, puis les gens sont restés, ont beaucoup aimé ça.
Oui, parce que dans le fond, ben, quand on parle du dessin, d'abord, pour peut-être se figurer un peu l'appareillage, je parlais tout à l'heure de dessin en direct, c'est un peu le terme. Dans le fond, on voit le dessinateur travailler, on voit tous les mouvements de main, les traits composés, là.
Oui, ben c'est ça, on utilise les écrans de projection au Cercle, donc les dessinateurs vont dessiner en direct, ça va être filmé avec une caméra, et c'est projeté sur les écrans. Donc, les comédiens peuvent interagir avec ce qui est projeté, et encore là, ça peut devenir une contrainte, comme un élément de décor, comme plein de choses.
Mais c'est ça, c'est comme un gros travail d'équipe entre le dessinateur puis l'équipe d'improvisateurs, là, carrément, là, puis la dynamique est vraiment trop le fun. Moi, j'ai essayé une fois jusqu'à maintenant, puis c'était au bar...
La Ligne Quasi,
c'est ça. Puis, habituellement, je suis vraiment gênée en public, mais avec la dynamique qu'il y avait, là, j'ai tellement de fun que, justement, j'ai décidé de répéter l'expérience avec l'équipe d'improvisateurs.
Dire, parce que justement, on parle de dynamique, on parle d'expérience. Qu'est-ce qui vous a attiré, Simon, Valérie, vers ce concept-là? Pourquoi on dit, bon, OK, j'embarque, j'ai envie de relever un défi comme celui-là?
Bon, pour ma part, je peux pas parler pour tous les autres joueurs d'improvisation qui vont être présents, mais je suppose que c'est le cas. Pour ma part, il y a depuis longtemps, très longtemps, un engouement pour la BD. Je veux dire, j'avais moi-même participé avec mon petit produit il y a quelques années au Festival de la BD. La chance d'allier deux de grandes passions ensemble, soit la scène et la BD, ça me semblait être une opportunité en or. En plus que j'avais déjà entendu parler, vu des vidéos de ce qui se faisait en Europe, et je me suis dit, mon Dieu, mais ce serait merveilleux si ça venait ici. Et comme de raison, ça nous est tombé dessus comme un cadeau venu du ciel. Et c'était encore plus merveilleux de le faire que ce qu'on avait anticipé. Ouais, alors, n'importe quand.
Ben, c'est ça, moi, en fait, c'est l'inverse, c'est que je suis vraiment une grande fan d'impro. J'ai assisté à plein de matchs, là, depuis les 10 dernières années, là, à Québec. Puis, c'est juste que, tu sais, j'admire les gens, justement, qui vont sur scène, puis qui font des improvisations, puis qui sont capables de trouver des idées. Mais là, j'allie vraiment deux choses de vraiment trippantes, c'est-à-dire l'illustration, la BD, mais aussi la mise en scène, l'histoire. Fait que c'est l'alliage de ces deux-là.
Là, oui, c'est le mélange de ces différentes compétences-là, la narration tant dessinée que mise en scène. De chaque côté, ça se passe. Puis de chaque côté, on ne sait pas du tout où ce qu'on s'en va avec nos skis avant de le faire.
Oui, ce qui est important, on parlait d'équipe aussi. C'est pas une équipe de dessinateurs, une équipe de comédiens et tout. C'est vraiment une équipe mixte avec les comédiens et les dessinateurs. Donc, il y a vraiment une synergie qui se forme qui est franchement intéressante.
Et peut-être pour se donner une idée, justement, de comment ça s'exprime sur scène, est-ce qu'on aurait quelques exemples de catégories qu'on pourrait retrouver dans un match d'impro BD?
Oui, ben des choses comme de demander au dessinateur de dessiner la couverture d'une improvisation. Ça veut dire qu'une improvisation se passe et les dessinateurs doivent, dans un certain laps de temps, dessiner la couverture de l'histoire qui vient de se passer.
Comme le poster du film.
De travailler avec un décor aussi, que les comédiens travaillent avec un décor qui est imposé par les dessinateurs, où il y a des courtes impros dessinées avec un mélange de théâtre aussi. C'est assez varié, les thèmes.
Puis il y en a certains où la narration est directement inspirée de la bande dessinée. On pense entre autres à une catégorie qui, moi, m'avait marqué, qui est la première et la dernière case, où un dessinateur passe en premier et dessine la première et la dernière case de l'improvisation, qui devra se commencer par là et finir là, et il se passe 3 minutes entre les deux. J'avais trouvé ça fun.
Quand on parlait de contraintes, c'est ça.
Ouais, c'est une belle contrainte.
Et comment on reçoit ça, justement? On est sur le banc et en improvisation, en fait, habituellement, on a quoi? Une trentaine de secondes maximum pour se préparer, pour trouver une idée. Donc, comment ça se passe sur le banc? Parce que on n'a pas juste, justement, une situation à penser, on a un visuel à penser. Donc, j'imagine que dans les caucus, ça doit être une dimension qui est différente de l'impro traditionnelle.
Oui, mais moi, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai jamais fait de vrai match d'impro, là, mais c'est vraiment un échange avec l'illustrateur ou le BDiste sur place, avec l'équipe. Il y a beaucoup d'échanges rapides, puis là, il faut que tu t'assises devant ton petit bout de papier, puis tu fasses « OK, là, maintenant, avec l'équipe, l'idée qu'on a trouvée, je mets ça sur papier, on embarque, go, là. » Mais l'échange est vraiment constant tout le temps, là. T'es pas l'illustrateur tout seul dans ton coin, puis c'est toi qui décides, là, tu sais.
Mais il faut dire aussi que, je suis obligé de faire une confession, les improvisateurs dans ce genre d'événement-là ont le beau jeu, parce que effectivement, d'habitude, on a un 30 secondes pour décider rapidement de ce qu'on va faire. Mais là, on a une belle grosse image qui nous inspire. Et c'est beaucoup plus facile quand on voit la grande image et l'inspiration. Ah oui, on fait ça, les images, les idées perlent d'elles-mêmes. C'est ce qu'il y a de plus. C'est une des choses les plus stimulantes en impro qu'on a vécues depuis un certain bout de temps.
Ça, donc, ça devient vraiment, en fait, une inspiration, une source d'inspiration. Et ça apporte un dynamisme particulier au jeu, dans le fond, de pouvoir avoir ces images-là, ce dessin-là, qui dans certaines catégories, même pourrait se faire en direct pendant l'improvisation.
Dans certaines catégories, il se fait en direct. Ça arrive, je pense. On a même eu des catégories où après que l'arbitre ait sifflé, il y avait une autorisation que les dessinateurs poursuivent leur illustration.
Ouais, ouais. Puis où un membre de l'autre équipe, le BDS dans l'autre équipe, dans le fond, poursuivait l'illustration que tu venais de faire, puis ça venait à quelque chose de complètement différent puis délirant.
On a même eu des comédiens qui ont participé au dessin.
Oui.
Ils se sont jetés sur la feuille.
et en même temps, j'imagine, pour un dessinateur, une dessinatrice, une expérience comme ça, c'est vraiment complètement se jeter sans filet, parce qu'il n'y a pas de marque de trait, il n'y a pas
non.
de... C'est directement...
C'est toi, ton crayon, ton équipe, puis ta feuille, là. Juste ça, mais tu sais, ça sent tellement du contexte, parce que les illustrateurs, les BDS, pardon, t'es habitué de travailler tout seul dans notre petit coin, personne nous voit, mais là, t'es avec ton équipe, t'es devant la foule, en plus, fait que ça apporte une dynamique quand même assez unique puis spéciale, là.
Et Thomas Louis, d'ailleurs, en fait, je pense que au match en avril dernier, au festival, on l'avait vu qu'il y avait certains BDistes qui réussissent même à mettre en scène leurs dessins pour créer des effets comiques, pour créer des réactions.
Oui, mais tout est dans le rythme de dessin. Tu parles sûrement d'Arthur Depin qui réussissait à amener la foule à penser que son dessin se dirigeait à un endroit, puis hop, un petit trait, et on pense que ça tournait vers d'autres choses. Des petits dessins coquins qui tout à coup deviennent une plage, deviennent un parasol. C'est vraiment franchement bien fait. Et j'espère que les dessinateurs ici vont jouer ce jeu-là aussi.
Il y a effectivement un timing qui est lié non seulement à l'improvisation en tant que telle, mais au dessin. À chaque fois qu'il y a un trait qui se fait, les anticipations du public se manifestent, et là on peut l'amener à quelque part. Il y a déjà un punch avant même que l'impro ait commencé. C'est une expérience en tant que spectateur.
Et j'imagine que pour les amateurs de BD, pour ceux qui connaissent justement les univers, on parlait de JF, Michael, Michel Falardeau, Valérie Morancy, Estelle Bachelard, Bach. J'imagine que c'est une opportunité aussi de découvrir d'autres versions de leur style, parce que tu le mentionnais, Valérie, c'est pas du tout la même chose que le travail en album. Donc, c'est pas du tout le même style qu'on va retrouver dans les illustrations sur les blogs, dans le travail d'album, etc.
Pas du tout. C'est complètement différent. Ben, c'est plus nerveux. Mais c'est vraiment, c'est du premier jet, puis t'as 30 secondes pour amener une idée ou pour, mettons, mettre sur papier l'idée de ton équipe. Fait que c'est quand même assez...
C'est des dessins très courts, donc des gens comme JF qui sont habitués de faire des dessins quand même hyper super léché, bien développé, on trouve une souplesse de trait qui est assez particulière parce qu'il doit vraiment réagir assez rapidement, dessiner. Donc,
Et d'un autre côté, c'est un absolu antidote au syndrome de la page blanche.
Oui, t'as pas le choix.
Et j'allais dire, comment on se prépare comme ça, en fait, autant du côté des dessinateurs que du côté des joueurs? C'est quoi la préparation d'avant-match? C'est quoi le type de cohésion qu'on doit essayer de créer dans les équipes? Ou est-ce qu'on se pratique et on essaie de faire des dessins rapides, des sketchs à la maison pour se faire la main? Je sais pas. Ou...
Bon, je pense que je suis celui dans la salle ici qui a participé aux deux matchs qui se sont faits jusqu'à maintenant d'impro BD. Puis la réponse à cette question-là, Raymond, c'est que la première étape, c'est de se déjeuner et de se parler mutuellement. Les BDS, les joueurs, on se connaît dans le milieu, on se connaît mutuellement dans nos milieux, mais la première étape, c'est de briser la glace. Et après ça, c'est de découvrir les univers les uns des autres. Je suppose que quand l'expérience que j'ai eue, moi, en tant que joueur, c'est quand on arrive à connecter sur des sujets, quand il y a une idée qui est proposée, puis dit, ah oui, ça, et qu'on voit que les BDistes, comme les improvisateurs, embarque sur le même filon, on dit « Ah oui, là, on connecte. » Et à partir du moment où on trouve ce point de connexion-là, ça coule de source.
Puis l'avantage d'avoir créé une ligue, justement, c'est que les équipes vont être fixes. Donc, il y a trois équipes pour cette première partie de saison. La glace va être brisée lors du premier match, mais les équipes vont suivre. Donc, les gens vont se connaître et il y a une part de... Les gens seront plus gênés entre eux autres, au moins après le premier match, là.
Et en même temps, on parlait des dessinateurs, donc c'est des gens d'expérience aussi qui en font régulièrement, qui en font beaucoup. C'est la même chose pour les improvisateurs. C'est des gens qui ont un bon bagage d'impro. C'est pas des débutants qu'on va voir sur scène non plus.
Non, on a du monde qui viennent quand même des grosses ligues de Québec. On a des gens qui là-dedans qui sont comédiens professionnels, des gens qui ont joué, qui ont déjà tourné au cinéma, entre autres. J'ai tout droit de nommer des noms à l'antenne. On a Denis Marchand. On a Sébastien Brisson, Ariane Guénette-Mingui, on va avoir Geneviève Boivin, on va avoir Christian Saint-Pierre et autres, mon Dieu, j'en oublie. Il me glisse entre les doigts au fur et à mesure que j'ai nomme François Angers.
Donc, dans le fond, des belles équipes. Là.
Des belles équipes, des gens extrêmement sympathiques et entourés de dessinateurs qui le sont tout autres.
Et côté ambiance, comment ça va se passer? Donc, est-ce que ça va être un peu l'ambiance classique des matchs d'impro? Vous avez essayé de développer quand même un esprit en emballage un peu plus particulier, ou en même temps c'est la construction de la ligue à laquelle on va assister au fil des prochains mois?
Ben, c'est la construction de la ligue à laquelle vous allez assister, c'est certain. Donc il y a une période de rodage, on s'entend. Cela dit, on utilise des formes assez classiques en impro, c'est-à-dire il y a les musiciens qui vont être un ensemble de jazz qui sera là, un animateur, le public va être invité à voter, donc c'est vraiment une formule quand même assez classique au niveau de la forme, mais c'est dans le contenu que c'est assez particulier.
Et Valérie Simon, qu'est-ce que vous espérez, donc, des premiers matchs de la Ligue d'impro BD, qu'est-ce que vous espérez offrir au public, en quelques mots?
Ah, mon Dieu, c'est du gros fun, là, carrément. Là. Je pense que fun. Du gros fun.
Du gros fun. J'espère qu'on va être capable de transmettre au public ce qu'on a déjà vécu de ça, cette espèce de nouveau médium qui naît quand on unit la scène à la page. C'est selon moi, c'est quelque chose. En tout cas, j'espère que ça va exploser. À partir de là, j'espère que ça va exploser littéralement.
Ah, mais ça va exploser.
C'est clair que ça va exploser.
Oui, ça va.
Okay. Et si ça marche pas, ben on va mettre des pétards, puis là, ça va exploser.
Je retournerai dessiner chez nous.
Je suis sûr. Écoutez, ça a été fulgurant toutes les fois qu'on l'a fait. Tout le monde a adoré. J'ai entendu aucune critique négative.
Ben, en fait, c'est un des moments forts, je pense, en fait, du festival de BD. Oh, oui. On en avait fait le bilan, Thomas-Louis Côté, après le festival, et tu nous l'avais dit, regarde,
c'est une des choses qu'on a notées, qu'on voulait refaire au festival, puis maintenant, on peut plus attendre. D'avril à avril pour en refaire. La Ligue est là pour justement combler ça. Mais on va se revoir quand même en avril sous une...
Et c'est important pour le festival de s'associer au lancement de cette Ligue-là, d'initier le lancement de cette Ligue-là?
Oh, absolument. Je veux dire, le festival ne veut pas qu'être un événement annuel. Il veut aussi, sur une base annuelle, avoir des activités puis s'associer à des initiatives de promotion de la bande dessinée. Je pense que la Ligue en est un bel exemple. Puis, je veux dire, si on est capable à travers ça d'aller chercher d'autres amateurs de bande dessinée, des amateurs de bande dessinée qui vont devenir des amateurs d'impro, ben je pense que tout le monde va être gagnant là-dedans aussi. Non?
Alors, le premier match, il est le 28 octobre prochain, donc c'est à 20h, l'ouverture des portes à 19h. C'est des matchs, en fait, vous dites, c'est votre mode exhibition, donc qui va durer une un nombre indéterminé de matchs, donc c'est gratuit, contribution volontaire. On assiste à la construction de tout ça. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations, à la page Facebook, donc Ligue québécoise d'impro BD. Ah ben voilà, Valérie Morancy-Valmo, oui. Merci.
Merci.
Thomas Lucoté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, merci. Et Simon Trudeau, joueur, merci.
Merci beaucoup.
Et merci.
Et ben, bonne première dans deux semaines, dans moins de deux semaines.
Moins de deux moins semaines.
Une semaine et demie. Ça s'en vient, un peu stressé.
Tu peux stresser un petit peu.
Mais merci beaucoup à vous trois.
Merci.
Et nous, on prend une courte pause ici à La Vie en BD. Encore à venir, on parle de Fearless Man avec JP Perrault et également les commentaires BD de Marco Duchesne.
Réaction. Tania B. Lacasse et Jean-Sébastien Grondin vous convient à 90 minutes de Freak Beat. De psychédélique. De rock garage sur les ondes du 89.1. Une rencontre inespérée entre deux pyromanes musicaux. Lundi 20h, c'est Réaction Psychotique.
Qui a dit que les contes sont seulement pour les enfants? Le diffuseur de la parole Conté à Québec, Les Amis Imaginaires, offre au plus grand un fabuleux spectacle pour l'ouverture officielle de la saison 2012-2013 au Studio P. Les 2 et 3 novembre prochains, des conteurs exceptionnels vous inviteront à plonger dans des univers particuliers et fascinants. Jocelyn Bérubé, Arline Thibault et Denis Gadouri porteront à vos oreilles les paroles d'hier et d'aujourd'hui. Les 2 et 3 novembre à 20h au Studio P, 280 rue Saint-Joseph-Est. Billets en prévente et calendrier des spectacles sur lesamisimaginaires.ca. Le Largo est fier de présenter la 6e édition du Festival Jazz de Québec du 15 au 28 octobre. 80 spectacles de haut calibre avec des artistes de renommée internationale dont Robert Glasper, Arturo Sandoval, Oliver Jones, Vic Vogel, Colin Hunter et un hommage aux 50 ans de carrière de Roland Martel. Près de 20 lieux chaleureux et prestigieux accueilleront les spectacles du festival. Vivez au rythme de la note bleue en suivant le circuit jazz à travers la ville. jazzaquebec.ca.
Voici les livres qui ont marqué Pantoute.
De guerre interstellaire en saga magique.
Le guide du routard galactique de Douglas Adams.
Demain les chiens de Clifford D. Simak.
Le seigneur des anneaux de Tolkien.
Le trône de fer de G.R.R. Martin.
Pantoute, votre libraire depuis 40 ans.
Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animé par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui.
Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneault et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés.
Et oui, toujours à l'antenne de CKRL, c'est La Vie en BD qui se poursuit. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et maintenant, on retrouve Marco Duchesne. Bonjour.
Salut.
Et Marco, en fait, cette semaine, tu nous arrives en fait avec une BD. Tu me lançais le titre par courriel. J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir qu'est-ce que c'était. Et je me suis rendu compte que c'était une BD au concept absolument délirant.
Écoute, c'est vraiment le gadget. Mais d'habitude, les gadgets, je regarde ça d'un œil, puis je me dis, bon, c'est rigolo. Mais ça, quand c'est arrivé, en fait, l'histoire de ça, c'est que c'est sorti en anglais il y a une couple d'années. Et quand c'est sorti, ça s'appelait Meanwhile.
pendant ce temps. Mm-hmm. Alors, quand on a vu ça, on a rigolé, mais on a wow! Et le temps passe, et finalement, Carabousse... Attends, laisse-moi regarder la maison d'édition qui a un nom à coucher dehors. Carabousrakis. Carabousrakis sort de cet auteur-là. L'auteur s'appelle Jason Shiga. Sort un autre titre de lui en français. D'abord. Une espèce de... comme tu peux voir, le dessin, un peu grossier, un peu petit bonhomme. Mm-hmm. Alors, son premier essai, sa première sortie en français était un titre qu'il avait sorti qui racontait l'histoire d'un policier, un détective bibliophile qui court après une bande dessinée. C'était très sympathique, en noir et blanc, mais c'était pas Meanwhile. Mm-hmm. Et j'étais très déçu. Et soudainement, m'annonce la sortie de ce titre, Meanwhile, qu'ils ont traduit par vanille et chocolat, ou chocolat, qui, c'est trop facile, mais oui, Meanwhile, en anglais, vous allez dire pendant ce temps, et je vous explique le concept. Ouais, vous allez comprendre.
Il me semble que le titre anglais est plus ouais, attirant.
Là, évocateur mais... que, je pense qu'on n'a pas voulu prendre de chance. Qu'est-ce que vanille et chocolat? L'auteur, Jason Shiga, fait une très belle préface et nous avertit de ce que est vanille et chocolat. Vanille au chocolat, c'est exactement 3846 histoires.
C'est beaucoup. C'est
alors,
beaucoup,
mais... c'est une histoire qui, tout au long, qui, au fur et à mesure, va se multiplier en plusieurs choix. De 2, 3 à 4 à 10 choix. À un moment donné, c'est vous faites tout simplement votre histoire en suivant les cases, et à un moment donné, faut suivre les cases, et tu as l'objet entre les mains, tu vas voir, il y a des onglets.
Oui.
Et là, on suit avec son doigt l'histoire, et qui nous amène à différentes pages avec différents choix. Donc.
Ça fait penser un peu, parenthèse, à un peu une BD dont vous êtes le héros.
Voilà. Ou? Et voilà. C'est comme ça, mais multiplié par 1000. Vanille ou chocolat, la première page raconte l'histoire d'un petit garçon qui est chez le marchand de crème glacée. Et finalement, il se décide. Il dit au monsieur, il dit, oui, j'ai pris ma décision. Vanille ou chocolat? Et c'est là sa part.
D'où le titre français.
Et on a une case qui nous indique vanille, et là, on suit avec son doigt.
Vanille.
Vanille, qui va nous amener à une histoire. Et si on suit chocolat, on suit chocolat, et ça nous amène à une autre histoire. Et là, si on choisit une des deux, ça va nous amener à... le petit garçon se promène, a mal au ventre, ça lui prend des toilettes, sonne chez quelqu'un, lui demande à la permission d'aller aux toilettes. Il va aux toilettes, découvre des choses dans la toilette, sort des toilettes et découvre qu'il est chez un savant. Le savant lui dit, « Je suis un savant, j'ai fait des expériences. Voici 3 prototypes de mes inventions. » Et là... choisis lequel tu veux essayer.
Il peut avoir des fins prématurées là-dedans, parce que je feuillette le livre, puis il y a des fins à 3e page.
Alors, on nous indique dans la préface, Shiga, l'auteur, nous indique qu'il y a 3846 histoires, il n'a qu'une seule où l'humanité survit.
Mon Dieu.
Toutes les autres, c'est soit c'est des cul-de-sac, ou soit c'est que l'humanité crève. Le petit garçon, ses choix, au fur et à mesure, et là, il nous avertit, Shiga, il dit, il va y avoir, il y a des codes. Et à un moment donné, il y a un chiffrier électronique où on a besoin d'un code pour faire avancer l'histoire. Et elle est dans l'histoire. Et si tu prends le mauvais chemin, t'as pas le bon code. Ça finit en cul-de-sac ou ça finit par la mort. Écoute.
C'est complètement sauté.
Et là, il nous dit, essayez de tricher. J'ai essayé, man.
T'as pas
réussi.
J'ai
pas trouvé la fin heureuse. Alors, j'ai recommencé 4 à 5 fois. Hier, je faisais mes devoirs. J'ai dit, bon, pour parler comme il faut, je vais en faire quelques-unes. Et j'aboutissais pas. Je cherchais le code. Écoute, c'est délirant. C'est en couleur. Les pages sont en plastique, comme tu peux le voir. C'est très...
L'objet lui-même est super beau. Là,
ah,
je veux
oui.
Dire,
ah oui. Et on s'amuse. On s'amuse comme un...
Mais ma grande question, Marco, en fait, si tu dis il y a 3856 histoires possibles, est-ce qu'elles sont toutes bonnes? Est-ce que ça se tient? Est-ce que chacune réussit à avoir du sens? Ou au contraire, il y en a qui se sentent un peu garrochés? Ou...
En fait, il y en a beaucoup qui finissent fin en cul-de-sac. Comme je t'expliquais, il y en a une, entre autres, le choix est assez simple, tu prends telle affaire, tu arrives là, et ça, si, il arrive à la maison, fini. Ah. Donc, tu recommences. Mais Les trois inventions, attends, les trois inventions, c'est une machine à remonter le temps, mm-hmm. une machine à lire les souvenirs dans la tête de quelqu'un et un kilotron. Alors, mais attends, à un moment donné, tu choisis, exemple, la machine à souvenirs. Tu voyages dans les souvenirs de soit le savant fou ou soit le petit garçon. Mais le petit garçon, il se souvient de tout ce qu'il a fait. Alors, si tu prends le savant fou, ah, lui, il a inventé le kilotron et tout. Et là, tu veux. Et si tu choisis le kilotron qui tue et que tu viens pas du code, il faut que tu reviennes à chercher la machine à souvenirs pour avoir le code du savant. Tu comprends? Tout est interrelié. C'est fou. C'est dément. Moi, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est un joli gadget. C'est un jeu vidéo sur papier. C'est un épisode de ta série préférée. C'est Lost. Tu sais, c'est... Écoute, au moins, à lire ou à regarder, à aller voir de quoi ça a l'air. Sinon, des heures de plaisir.
Mais en fait, c'est ce genre de truc qu'on peut pas non plus. Je veux dire, j'ai été sur Internet quand tu m'as dit le titre, j'ai essayé de voir, j'ai vu des pages, mais non. Faut voir l'objet. C'est vraiment une BD papier, point, là. Il n'y a pas d'autre manière de...
Et tu sais, tu regardes les cases avec les petits... en fait, c'est pas des flèches, mais les cases sont reliées. Mm-hmm. Mais quand ça décolle pour aller chercher une autre page... T'es obligé de... Je voulais pas utiliser mon doigt. Tu sais, suivre la petite ligne.
Oui, mais t'as pas
là,
le choix.
Puis là, à un moment donné, bon, tu regardes, c'est facile, il y a juste une ligne. Mais à un moment donné, tu vas voir, il y a des pages où les lignes sont entremêlées. Exemple, la machine... Il y a une machine avec pile ou face. Alors, t'as deux mains. Tu choisis la ligne, lequel va être pile ou face. Et là, tout est emmêlé. C'est, le hasard est quasiment... C'est fascinant. Fascinant. C'est un petit truc qui est entré. Ça s'appelle tout simplement Vanille ou chocolat. C'est chez Cambourakis, une drôle de petite maison d'édition. Et c'est Jason Shiga. C'est disponible maintenant en français pour, je pense, une vingtaine de dollars.
Les plus hautes recommandations?
Ouais.
Oui.
Sinon, est rentré, si tu me permets, si j'ai du temps. Si tu me permets, est rentré quelques titres intéressants... Quelques titres intéressants chez Air Libre. Air Libre, c'est une collection chez Dupuis. Dupuis a parti cette collection-là il y a une vingtaine d'années. Elle célèbre ses 20 ans, ou a célébré ses 20 ans l'année passée. Et Air Libre, c'est carte blanche à des auteurs pour les laisser aller dans leur imaginaire, dans des histoires qui sont en un seul album ou en deux ou trois maximum. Donc, est rentré la semaine passée deux titres fort intéressants que moi j'ai beaucoup aimé. D'abord, de l'auteur Jorge Gonzalez, un Sud-Américain qui nous sort un titre qui s'appelle Chère Pentagonie. C'est le 100 ans de solitude de la BD.
Okay.
C'est toute une famille. On voit toute l'histoire d'une famille au Brésil. On voit tout au début du 20e siècle. Et tout ça avec le magnifique dessin de Gonzalez. Gonzalez nous avait donné Pandaleon, qui était une histoire brésilienne. Mm-hmm. Mais là, ici, c'est l'histoire d'une famille. On voit une jeune fille qui se ramasse en ville chez un commerçant. Et là, au fur et à mesure, on voit... Écoute, c'est magique. Et le dessin de Gonzalez, très fantomatique, très
ça vient
artistique.
Appuyer,
Ah oui, c'est magnifique. C'est une brique. C'est énorme. C'est du même volume que Panderosa, son... Portugal, si tu te rappelles bien.
Oui.
L'autre titre, c'est notre ami Bastien Vivès, qu'on aime beaucoup. Alors, il s'associe à deux autres auteurs, Rupert et Mulot, pour donner la grande Odalisque.
Et je pense que c'est un des premiers titres que j'ai vu de Vivès avec des collaborations
pour la première fois. Ouais. Et il est très présent dans le dessin, dans l'humour. Alors, la grande Odalisque, c'est Charlie's Angels chez les voleurs. Trois filles qui se font le musée du Louvre, mm-hmm. pour voler un tableau. Le dîner c'est Renoir? Le dîner sur l'herbe?
Je pense que oui.
Bref, c'est le dîner sur l'herbe. Et ils volent le dîner facilement, d'ailleurs. Mais une a des problèmes avec son petit ami. Alors, pendant le vol, elle règle sa relation avec sa petite amie. C'est très drôle. Et le dessin est très Bastien Vivès, là, avec parfois les visages, on ne les on les voit pas, mais beaucoup d'émotions quand même. Très rigolo. Alors, ces trois Charlie's Angels vont retourner au livre, voler un autre tableau, La Grande Odélisque, pour un autre type. C'est très drôle. Plein d'action. Tu sais, contrairement... Oui. Pas qu'il n'y avait pas d'action dans ce que Vives faisait, mais... Tu sais, il faisait passer son humour, ses émotions avec ses visages chantés, ses images un peu fixes.
Oui, mais en fait, on avait eu l'occasion de le rencontrer ici à l'émission l'année dernière. Il nous avait dit, regarde, moi j'aime ça, me renouveler, essayer d'autres choses. J'ai jamais fait de série d'action, j'ai jamais fait de manga, j'ai jamais fait de série cochonne non plus. C'est des trucs que je veux essayer de faire pour voir comment je m'y prendrais.
Alors, dans ce titre qui s'appelle La Grande Odalisque chez Air Libre, aux éditions Dupuis, ce trio, cette BD à six mains, Vives, Rupert et Mulot, eh ben, écoute, je vous le conseille fortement. Beaucoup d'action, mais beaucoup d'humour. Très blockbuster.
OK.
Et ça fonctionne. Dans la rentrée, en fait. Et on a reçu, je vais le lire, c'est juste pour les curieux. Alors, tu connais la série Alix. Jacques Martin avait créé cette série-là il y a des années, dans l'autre siècle.
Oui.
Ah oui. C'était, Alix est un jeune Romain qui vivait des aventures dans la Rome antique, dans la Grèce aussi. Bref, tout ce royaume antique, Jacques Martin a animé cette série longtemps. Elle est encore animée, même après sa mort. Les studios des dessinateurs l'ont repris. Écoute, ça apparaissait dans les journaux de l'époque. Et soudainement, on a décidé de revamper la série. On a confié ça à deux, un dessinateur et un scénariste, qui va chercher toutes les couleurs et le dessin de Munera. Tu sais, Munera, oui, cette série qui est faite...
Une superbe série sur la romance, sincèrement.
Maintenant, est âgé d'une cinquantaine d'années. Il est sénateur.
Ouais.
C'est Alix Sénateur. Le premier, c'est Les Aigles de sang. Je l'ai feuilleté et ça m'intrigue. J'étais pas un fan d'Alix, de Jacques Martin. J'étais pas un fan de... Mais là, je t'avoue que ce concept-là, le péplum fait par Munera Marini avec les Aigles de Rome, eh ben, je trouve que ça vaut le coup d'œil.
Ben Marco, on donne une mission, tiens, dans deux semaines. Tu nous en parles, tu nous reviens là-dessus. Tu nous dis si ça vaut la peine.
Ça marche.
Excellent. Et Marco Duchesne, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Et à très bientôt.
Ciao.
Et voilà, donc toujours avec cette formation Talbot Arcade, dernier extrait, donc Pintail Expressway, ici à la vie en BD. Et nouvelle série à saveur comics qui arrive du côté de l'auto-édition, qui est disponible chez certains libraires à Québec. Il s'agit de la série Fearless Man. Et pour nous en parler au bout du fil, on est en compagnie du dessinateur J.P. Perrault. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Plus ou moins, en fait. Je suis présentement au coin de Berry et Ontario et le métro est bloqué, il pleut et c'est l'enfer.
Oui.
Mais à part ça, ça va bien.
vous êtes sans peur à l'image de votre héros.
Merci.
et d'ailleurs, en fait, JP, si on avait à le présenter, Fearless Man, qu'est-ce qu'on en dirait, comment on le présenterait?
Eh bien, Fearless Man, c'est l'histoire d'un super-héros, genre, plus ou moins un super-héros, voire plus ou moins défini. Un peu à l'image des pulp heroes comme The Shadows des années 30. Et l'idée, c'est de d'amener ce genre de personnage-là à l'ère moderne et en même temps que ce soit un trou de cul.
Hmm. ça lui donne une dimension particulière, justement, parce qu'habituellement, nos héros, les super-héros, sont sympathiques. Dans son cas, c'est pas du tout ça. Il est antipathique, il est imbu de lui-même, limite désagréable avec ses fans et le reste, là.
Oui, il reste quand même là. Il croit profondément à la justice et à, ou du moins, sa perception de la justice. C'est un personnage qui est très noir et blanc, et même qu'il est littéralement noir et blanc, il est albinos. Et porte des vêtements blancs et noirs seulement.
Et qu'est-ce qui vous a amené justement vers ce type de personnage-là, vers une psychologie un peu plus antipathique, mais vers ce Fearless Man-là, justement?
Fearless Man, à la base, c'est que je suis un ancien étudiant de l'Université du Québec en Outaouais. Et durant un des cours de Réal Godbout, j'avais créé ce personnage-là. C'était juste une idée très ridicule, en fait, de Fearless Man qui arrive et qu'au lieu de sauver la situation, ben il fout tout en l'air et voire même va complètement mettre la pauvre victime dans marbre. Et ça a un peu évolué de fil en aiguille pour éventuellement mener à le produit que là présentement Fearless Man, c'est vraiment plus une réflexion sur la notion de la justice.
Et en même temps, avec un côté justement très absurde, un humour un peu décalé par moment aussi. Donc, on joue un peu, ça permet de jouer avec différentes frontières, différentes possibilités au niveau scénario, notamment que scénario qui est écrit par Antoine Joie.
Oui, exactement. J'avais commencé à travailler il y a quelques années pour faire éventuellement une série. Et Antoine, ça l'intéressait de faire du super-héros, fait que vu que je suis pas le meilleur scénariste du monde, j'ai pas une très grande vision d'ensemble, contrairement à lui. Donc, il s'est joint avec joie au projet. Et on planifiait à l'avance les événements qui vont se passer, mais c'est plus lui qui s'occupe du scénario. Puis, ouais, on mise vraiment sur l'absurde, l'humour. C'est pas, ça se prend pas au sérieux forcément, même s'il y a quand même une certaine réflexion derrière ça.
Oui, parce qu'en fait, on le voit le décalage, notamment autour des méchants, par exemple, des vilains, des super vilains qu'on découvre dans les deux premiers tomes. Il y a DJ Man, il y a Pepper Man, donc on s'amuse un peu avec les archétypes de super-héros puis les archétypes de super-vilains.
Oui, exactement, comme Pepper Man, entre autres, c'est littéralement un homme avec une tête de poivrière. J'ai beaucoup de fun à dessiner, d'ailleurs.
Et d'où vient ces idées-là encore là? C'est vraiment l'idée d'accentuer un peu le côté, le volet un peu plus humoristique, un peu plus décalé de la série?
Ouais, exactement. C'est dans le fond, c'est toujours on essaie toujours de sortir de la boîte, comme on dirait, pour trouver des idées de méchants, mais qui finissent toujours en man, fait que c'est toujours quelque chose de man. Habituellement, comme il y a le personnage de Catman, entre autres, qui est un personnage au costume complètement ridicule en avec texture léopard.
Et j'aime bien en fait le ton que ça peut donner, justement, quand on disait au départ que ça nous amène ailleurs que dans les trucs de super-héros traditionnels. Ça peut amener à des séquences surréalistes. Je pense, si je me trompe pas, c'est dans le tome 2 où il y a une séquence de combat, justement, comme contre DJ Man, où Fearless Man va carrément utiliser des individus, des personnes comme armes envers une foule. C'est complètement du n'importe quoi, mais sympathique, là, vraiment.
Ouais, exactement. C'est l'essence même de Fearless Man, c'est-à-dire que il fait tout pour atteindre son but de justice, même si c'est au détriment des victimes parfois. Donc c'est vraiment une vision de la vie complètement noir et blanc.
Et au niveau du travail de dessin, bon, on pense aux séquences de combo, aux séquences d'action, il y en a quand même pas mal là-dedans. De quelle manière, JP Perrault, vous y prenez justement pour organiser, pour scénariser tout ça, pour justement créer le rythme, l'ambiance, etc.?
Pour ce qui est de créer le rythme comme tel, je me pratique souvent à par exemple, répéter les pauses moi-même, avoir des pauses spécifiques, comme juste donner un punch ou sauter et atterrir à quelque part. Je vais littéralement le faire moi-même pour juste avoir une conscience, si on veut, du mouvement et de la position qui marche le mieux, et ensuite je vais essayer de la reproduire au dessin après.
Donc d'essayer de s'inspirer un peu du réalisme, de voir un peu, de décomposer les mouvements, puis de chorégraphier, d'imaginer comment le combat pourrait se passer aussi à travers ça.
Oui, c'est la réalité, mais en même temps, j'essaie toujours de l'exagérer autant que possible pour que ce soit le plus agréable à l'œil possible. Un peu, je suis un grand fan, entre autres, Hergé ou Jack Kirby dans leur manière qui font l'acting de leur personnage dans le fond. Donc j'essaie toujours d'avoir un petit côté exagéré un peu.
Et donc, vous l'avez mentionné aussi, le super-héros qui est en noir et blanc. Bon, le comic est en noir et blanc, mais le super-héros lui-même qui est albinos, ça fait aussi des belles pages couvertures où il y a la couleur et le noir et blanc qui sont mis côte à côte. Est-ce que c'est un peu aussi côté visuel, on disait qu'il y avait quelque chose à exploiter là-dedans avec ce choix-là pour le personnage principal?
Oui, ce choix, je trouve intéressant parce qu'il a, étant noir et blanc, c'est le maximum de contraste visuel qu'on peut aller chercher. Donc, je peux prendre... Mais je pourrais le matcher avec n'importe quelle couleur et il va toujours ressortir par rapport au reste.
Et donc, on peut découvrir cette série-là, Fearless Man. Les deux premiers tomes ont été lancés. J'imagine qu'il y en a d'autres qui s'en viennent aussi au fil des prochains mois.
Oui, j'achève le crayonné du troisième présentement. Donc, on devrait le voir d'ici peut-être la fin novembre, début décembre, le troisième. Et nous, on planifie ça quand même sur une longue échelle, donc il devrait y avoir beaucoup, beaucoup de numéros qui devraient sortir au cours des prochaines années.
Et à Québec, on les trouve chez quel libraire?
Il y a quelques numéros du premier chez la librairie Première ici. Mm-hmm. Tandis que le numéro 1 et 2, il faut les trouver à la librairie Phylactère.
OK. Donc, Première issue ou Phylactère pour aller explorer donc et découvrir l'univers de Fearless Man. JP Perrault, merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Et au plaisir. Alors voilà, donc Fearless Man de JP Perrault et d'Antoine Joie, donc maintenant disponible. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on se dirige vers la fin de cette édition de La Vie en BD. Évidemment, ce sera un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, vendredi prochain, on le dit, pour une longue rencontre, pour une belle rencontre avec Jean-Claude Mézières, le dessinateur, l'un des deux pères de la mythique série Valérian. On a eu 60 minutes avec lui qu'on vous diffusera avec un grand plaisir, donc vendredi prochain. Soyez-y, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été, évidemment, je le redis, un plaisir d'être avec vous cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.